Crédit Immobilier, le prêt longue durée de Banque Atlantique pour acquérir, construire ou rénover votre logement à taux exceptionnel vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, merci d'être avec nous, merci de votre confiance. L'antenne vous appartient et dans 30 minutes, nous parlerons ensemble du Bénin. Après la décision de la commission électorale d'écarter des élections législatives, le parti de l'opposition, les démocrates, le scénario de 2019 va-t-il se répéter? C'est la question que tout le monde se pose évidemment ce matin à Cotonou et un peu partout au Bénin. On va donc en parler. Je vous rappelle quand même les raisons invoquées par la commission électorale sur le 218 candidats du parti. De l'ex-président Boni Yayi, 4 n'ont pas obtenu ce fameux document qui atteste que vous êtes bel et bien en règle avec le fisc. Et du coup, conformément au code électoral, eh bien c'est toute la liste du parti qui a donc été invalidée. Les démocrates ont saisi la Cour constitutionnelle. Le recours sera examiné dans quelques heures, donc dans la matinée. Que vous inspire cette situation? 33 9 693 693 70. Et vos commentaires, évidemment, comme tous les jours, sur nos réseaux sociaux. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction de RFI. On va commencer avec des questions sur la démographie mondiale. Depuis mardi, nous sommes officiellement 8 milliards d'habitants sur Terre. Bonjour Lamine.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Et merci de nous appeler de Banjul, en Gambie.
Oui.
On vous écoute.
Selon l'ONU, nous avons passé le cap des 8 milliards d'êtres humains sur la planète. Comment sont réalisées ces estimations alors que dans de nombreux pays, les procédures de recensement sont peu fiables?
Oui, c'est une excellente question que vous posez, Lamine. Emmanuel Bastide est à mes côtés. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Juan, bonjour Lamine, bonjour à tous les voisins et voisines.
Vous présentez le magazine désormais baptisé 8 milliards de voisins avec, depuis le début de la semaine, une programmation spéciale. On va en parler évidemment dans un instant. 8 milliards d'habitants, Emmanuel Bastide, c'est évidemment une estimation.
Tout à fait, le chiffre de 8 milliards en fait a été annoncé en effet cette semaine, Lamine, par la division de la population des Nations Unies. Très approximatif, voire symbolique, parce qu'il est calculé sur la base des recensements dans chaque pays du monde. Mais comme évidemment la qualité de ces enquêtes varie d'un pays à l'autre, il est tout à fait possible qu'à l'échelle mondiale, ce seuil de 8 milliards d'êtres humains sur Terre ait été franchi peut-être même il y a 2 ans.
Ah oui ?
ou qu'il soit franchi dans les 2 ans à venir, c'est ce qu'a dit le démographe Gilles Pison. C'est vrai que dans certains pays, vous le disiez Lamine, il n'y a pas de recensement depuis des années. C'est le cas notamment, on en parlait Juan, de la RDC.
Antenne, oui, effectivement.
Et quand il n'y a pas de recensement, d'ailleurs c'est un problème pour établir des listes électorales, hein, c'est souvent polémique, mais il y a aussi une certaine pression des bailleurs de fonds quand même pour quantifier la population, pour dimensionner l'aide au développement, pour la population par exemple en âge scolaire. Donc c'est vrai qu'en général, cette pression elle s'exerce pour que les pays fournissent des chiffres et des estimations. Vous aviez une autre question,
oui,
je crois.
Oui, il y a d'autres questions. Évidemment, vous êtes bien informé, Emmanuel Bastide. Lamine, on vous écoute.
Et quel est le principal défi qui accompagne la croissance de la population mondiale?
Alors déjà, ce mot de croissance, il faut qu'il nous interroge parce que globalement, ce qu'il faut retenir sur ces 8 milliards, c'est que c'est un ralentissement général de la croissance de la population. On est à 1% de croissance démographique par an. Bon, pour l'Afrique, ça c'est pour la moyenne mondiale. Mmh. Pour l'Afrique, c'est 2 à 3% par an. La Chine, qui est aujourd'hui le pays le plus peuplé au monde, sera dépassée par l'Inde.
L'année prochaine d'ailleurs.
Oui, Hervé Lebras, qui est démographe à l'INED, nous expliquait dans notre émission ce lundi sur RFI que la population de la Chine pourrait même diminuer plus rapidement que les prévisions des Nations Unies avec une fécondité très basse. Hein. 1,16 enfants par femme, c'est bien en dessous du seuil de remplacement des générations qui se situe autour de 2,1, oui. En fait, un peu plus de 2. Malgré d'ailleurs la fin des restrictions de la politique de l'enfant unique, les Chinois ne font pas plus d'enfants alors qu'ils en auraient le droit. L'Inde, aussi très surprenant, est à un tournant. Autour de 2 enfants par femme, mais avec évidemment d'énormes différences entre le nord, le sud. Par exemple, au Kerala, dans le sud, on a une démographie qui est vraiment proche de l'Europe. Voilà. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est le ralentissement de cette croissance démographique. C'est un ralentissement très rapide, mais évidemment, nous, ça nous fait un drôle d'effet quand on dit ça, parce que la démographie, par définition, a une inertie énorme. Il faut attendre la génération suivante pour constater qu'elle fait moins d'enfants. Donc, 8 milliards, c'est un peu comme un gros camion qui appuie franchement sur le frein, mais qui met du temps à s'arrêter sur la route, qui est emporté par son poids.
Emmanuel Bastide, si les démographes ne se trompent pas, la population mondiale pourrait commencer à diminuer vers 2080.
Oui, 2080, il y a des marges d'erreur. Il y a eu des erreurs dans le passé. Un exemple, les démographes avaient prévu il y a des années que l'Afrique ferait sa transition démographique plus tôt. En réalité, l'Afrique subsaharienne n'a pas suivi le Maghreb. Il y a eu des exemples aussi sur l'Iran. On s'est beaucoup trompé sur l'Iran. On avait estimé que l'Iran aurait 180 millions d'habitants en 2050. Aujourd'hui, on prévoit plutôt moitié moins.
En quelques mots, Emmanuel Bastide, pour l'Afrique, quels seront les grands défis à relever ?
Nourrir la population, ça c'est sûr. L'Afrique sera à 2,5 milliards d'ici 2050. Les famines repartent, vous le savez. Les conflits, le réchauffement climatique, tout ça entre en jeu. Mais 60% de terres cultivables, une population jeune, très inventive, qui peut être un atout extraordinaire pour le continent si elle est bien formée.
Évidemment. Lamine, a-t-on répondu à vos questions ?
Parfaitement bien, merci beaucoup.
Et bonne journée à Banjoul. Emmanuel Bastide, on vous retrouve tout à l'heure, comme tous les jours du lundi au vendredi à 10h, 10 temps universel, semaine spéciale, je le disais tout à l'heure. Une question, sommes-nous trop nombreux pour aller à l'école ?
Oui, et demain, sommes-nous trop nombreux pour être heureux ?
Ah, je serai
on terminera la semaine comme
ça. Je suis sûr qu'aussi, il y a moyen de trouver des solutions pour être heureux.
Restons optimistes.
Bonne journée Emmanuel Bastide, merci d'être passé dans ce studio. 9h17 à Paris, ce sont vos questions à la rédaction de RFI. J'ai le plaisir d'accueillir Alceni, pour qui, je vois ça sur ma petite fiche du standard, pour qui c'est la première participation sur l'antenne d'RFI. Bonjour Alceni.
Bonjour Juan Gomez et bonjour à tous les auditeurs de la RFI, la grande radio au monde.
Hey, merci de vos encouragements. Vous êtes à Conakry, au Bénin. Vous avez des questions après les déclarations fracassantes de Cristiano Ronaldo.
Exactement, monsieur Juan. La diffusion de l'interview de Cristiano Ronaldo dans la télévision anglaise a détérioré les relations entre le joueur et son club Manchester United. Cristiano Ronaldo pourrait-il être sanctionné par son club pour ses propos ?
Ah, bonne question. C'est vrai que Ronaldo ne mâche pas ses mots dans cette interview explosive dans laquelle il critique son entraîneur, mais de façon générale la direction du club. Victor Misistrano, bonjour.
Bonjour Juan et bonjour Alceni.
Merci de nous rejoindre. Vous êtes journaliste au service des sports de RFI. Les images de cette interview ont déjà fait le tour du monde. Quelles en seront les conséquences pour Ronaldo ? Sera-t-il sanctionné ?
Ah ben ça semble plus que probable. Ronaldo était déjà, on le sait, dans une situation très délicate. Il avait déjà été sanctionné, exclu du groupe pendant une semaine après avoir refusé d'entrer en jeu le mois dernier. Là, dans un football où aujourd'hui on parle sans cesse du fameux respect de l'institution, critiquer son entraîneur comme il l'a fait. Je rappelle que Ronaldo a dit à propos d'Eric Ten Hag, son entraîneur, « Je n'ai pas de respect pour lui parce qu'il ne montre aucun respect pour moi. » Critiquer le travail des propriétaires du club, critiquer d'anciens coéquipiers qui sont des gloires à Manchester, ça ne passe pas du tout, donc il y aura sanction.
Et quelle pourrait être justement la nature de cette sanction ?
Alors, les médias britanniques évoquent déjà une amende record qui s'élèverait à 1 million de livres, donc plus d'un million d'euros. Cette année, il y a déjà eu un précédent en Angleterre niveau sanctions financières. C'est Romelu Lukaku, l'attaquant belge de Chelsea. Il s'était plaint de son temps de jeu. Eh bien, il a été sanctionné par ses dirigeants d'une amende de 500 000 euros. Alors, pour l'instant, pour Ronaldo, rien n'a été confirmé. On sait que les dirigeants de Manchester attendent la publication de la seconde partie de l'interview. Voilà, c'est exactement ça, ce soir. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au-delà d'une sanction financière, la sanction elle sera sportive. Aujourd'hui, il semble absolument improbable de revoir Cristiano Ronaldo jouer avec Manchester United. En tout cas, je ne parierais pas toutes mes économies là-dessus.
Mais son contrat court jusqu'en juin prochain.
Exactement, tout à fait. Mais les dirigeants du club souhaiteraient le résilier. En tout cas, c'est ce que révèle un journal anglais, le Telegraph. Donc là, ce sera une sanction encore supérieure. Par ailleurs, cette situation, on a un petit peu l'impression que c'est presque une volonté du Portugais, une façon, avec ses déclarations, d'acter le divorce avec Manchester United.
Alex Seni, autre question ?
Exactement, Juan. Quel est l'avenir désormais de Cristiano Ronaldo ? Le joueur de 37 ans peut-il encore rebondir dans un autre club ?
Bon, 37 ans, effectivement, pour un footballeur, c'est un peu âgé, mais C'est Ronaldo tout de même, il peut rebondir, non ?
Alors oui, mais pas n'importe où. Jusqu'ici, Cristiano Ronaldo a toujours voulu rester dans des clubs de très haut niveau. C'est un homme de défi, on le sait. C'était un défi pour lui d'aller à la Juve. C'était un défi de revenir à Manchester United. Donc son âge, a priori, ce n'est pas un obstacle. On connaît ses qualités physiques, on le sait. C'est un joueur qui a tout fait dans sa carrière pour durer. Il a une hygiène de vie irréprochable, il a un mental d'acier. Après, attention, évidemment, Ronaldo n'est plus le joueur qu'il était il y a quelques années. Il ne peut pas prétendre à être le numéro 1 dans une équipe de très très haut niveau qui joue la victoire en Coupe d'Europe. Là, je parle des 4-5 plus grandes formations d'Europe.
Et qu'est-ce qu'on peut imaginer comme point de chute pour
Ronaldo ? Eh bien, un club capable de supporter le poids que prend Ronaldo. Hein. Il bouleverse l'équilibre d'une équipe sur le terrain et l'équilibre financier et économique des clubs. Donc, il faut un club qui a des gros moyens pour s'aligner sur un salaire, on le rappelle, d'environ 25 millions d'euros par saison. À chaque fois, c'est un peu le même refrain. On évoque le PSG, le Bayern Munich, deux hypothèses qui aujourd'hui semblent peu crédibles car ces deux clubs ont des effectifs assez pléthoriques et prendraient probablement pas le risque d'intégrer CR7. On a vu les conséquences à Manchester. Cette préoccupation, le club saoudien d'Al Hilal en est bien loin puisqu'il a proposé cet été un contrat gigantesque de 242 millions d'euros sur 2 ans. Offre refusée par Ronaldo. Autre hypothèse, après un retour à Manchester, un retour au Sporting Portugal, son club formateur, ça impliquerait d'énormes concessions salariales de la part du joueur. Enfin, il y a l'option de l'aventure américaine, la MLS. Beaucoup de stars tentent l'expérience en fin de carrière. C'était le cas de son ancien coéquipier Wayne Rooney à Manchester ou encore de Gareth Bale aujourd'hui en MLS. En tout cas, la meilleure façon de trouver un club pour Ronaldo, ce sera de se montrer lors du Mondial qui débute très prochainement.
Voilà, effectivement. On suivra tout ça, évidemment. Alceni.
Très satisfait, monsieur Wangomen.
Eh bien, tant mieux pour une première. Ravi de vous avoir rencontré. Enfin, rencontré non, mais ravi de vous avoir connu, en tout cas, Alceni. Vous nous rappelez quand vous le souhaitez, bien évidemment.
Exactement, Juan.
À bientôt, Alceni, et à très vite.
À bientôt, monsieur Wangomen.
À très vite, Victor Misistrano, journaliste au service des sports de RFI. 33 9 693 693 70. Donald nous rejoint. Bonjour.
Bonjour.
À Lomé.
Justement.
Au Togo. On va tendre l'oreille. J'ai comme l'impression que le réseau téléphone n'est pas très très bon. Vous souhaitez que l'on revienne sur la poignée de main entre le président français et le président vénézuélien.
Oui, c'est ça. Emmanuel Macron et Nicolas Maduro se sont entretenus en marge à la COP27. Comment expliquer ce rapprochement alors que la France ne reconnaît pas Maduro comme l'actuel président vénézuélien ?
Ouais, c'est vrai que cette discussion, cette poignée de main peut surprendre quand on sait que la France n'a jamais officiellement reconnu la réélection de Nicolas Maduro en 2018 et qu'elle a même qualifié le chef de l'opposition Juan Guaido de président par intérim. Bonjour Christophe Ventura.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Vous venez d'ailleurs de publier aux éditions Erol, Géopolitique de l'Amérique latine. Alors c'est un échange qui a été, disons-le, très court, hein, très bref, 2 minutes à peine. Le tout filmé par la télévision vénézuélienne. Et bon, c'est de bonne guerre, les télévisions publiques du Venezuela ont diffusé en boucle ces images du président Macron discutant avec le président Nicolas Maduro. Le président Macron appelant Maduro, monsieur le président, que faut-il comprendre ?
Oui, tout à fait, et même l'appelant président plusieurs fois, et évidemment, c'était pas un hasard, il s'agissait bien de passer ce message-là. Officiellement, la France ne reconnaît pas Nicolas Maduro, mais désormais, elle le reconnaît comme président du Venezuela. Et alors, comment on en arrive là ? Comment, d'un seul coup, après effectivement trois années depuis 2019, où la France a pris des positions, un parti pris très fort dans le conflit vénézuélien contre justement ce même Nicolas Maduro, bah, je crois qu'il y a plusieurs éléments d'explication par rapport à la question de votre auditeur. Le premier, c'est que la France aujourd'hui prend en compte finalement la nouvelle donne sud-américaine avec l'élection en Colombie de Gustavo Petro et désormais de Lula au Brésil, donc deux présidents de gauche qui chacun ont bien depuis longtemps défini leur position par rapport au Venezuela et veulent une solution politique au Venezuela qui respecte l'intégrité et la souveraineté politique du pays sans ingérence extérieure et les deux, Lula et Gustavo Petro, pour des raisons différentes, ont besoin que cette crise cesse, et en particulier Monsieur Petro, qui a besoin en fait de Caracas pour régler tout un tas de dossiers urgents en Colombie, comme l'arrêt du conflit avec la guérilla de l'armée de libération nationale, par exemple,
ça, c'est la
sécurisation de la frontière, bref.
Ça, c'est la première hypothèse.
Voilà, ça c'est la première chose. C'est le changement de donne politique en Amérique latine, et la France prend acte de cette reconfiguration et a compris que si elle veut de bonnes relations avec les pays sud-américains, et même si c'est la région n'est pas la priorité de la politique étrangère française, le Brésil ou la Colombie, ça compte pour la France, en particulier pour les intérêts économiques français, pour les entreprises, et puis pour tous les dossiers multilatéraux, la question climatique, etc., etc., et le multilatéralisme, eh bien le Brésil et la Colombie font partie des points d'appui pour la France au niveau international. Donc, il faut d'une certaine manière dépasser l'obstacle vénézuélien qui coince, et les présidents sud-américains veulent une solution politique, donc la France en prend compte. Deuxièmement, bien sûr, c'est nous amène à l'Ukraine, c'est la question énergétique et pétrolière. La France, comme les autres pays européens, se disent que le pétrole vénézuélien qui est abondant et qui par ailleurs a pendant très longtemps coulé en France, eh bien, doit être une des possibilités pour faire face à la réduction et au tarissement même des importations françaises et européennes de pétrole et de gaz
donc,
de russe.
Donc, ça signifie,
donc c'est ça qui explique.
Christophe Ventura, ça signifie que la France est prêt à reconnaître Nicolas Maduro en échange de livraison de gaz et de pétrole.
Bah, ça fait partie du sujet, indéniablement, ça fait partie de l'équation, ça, plus ce que je vous ai dit avant, et puis peut-être aussi le souhait de détacher un peu le Venezuela de ses alliances justement avec la Russie ou l'Iran, peut-être de dire voilà, il faut réintégrer le Venezuela un petit peu dans la boucle, en quelque sorte occidentale, pour éviter de faire un allié de plus à M. Poutine en Russie. Mais ça, c'est le troisième objectif géopolitique. Les deux premiers sont, à mon avis, les plus immédiatement importants pour la France.
Bon, en tout cas, c'était intéressant, évidemment, d'avoir votre analyse, d'avoir votre décryptage. Et c'est vrai que, bon, tout le monde a évidemment pensé à la crise énergétique en se disant, bah tiens, la France cherche du pétrole, du gaz, et c'est plutôt pas mal de croiser dans les couloirs de la COP27 le président du Venezuela. Une dernière question, Donald.
Oui. Est-ce que d'autres États occidentaux pourraient également se rapprocher du Venezuela?
Se rapprocher du Venezuela, effectivement, pour essayer d'obtenir du gaz et du pétrole. Est-ce que d'autres pays l'ont fait ou sont en passe de le faire, Christophe Ventura?
Pas des moindres, puisque ça a commencé avec les États-Unis, en fait. Le coup d'envoi, si je puis dire, de ce nouveau chapitre a été donné par les États-Unis eux-mêmes, c'est-à-dire le grand adversaire de Nicolas Maduro dans la région. Monsieur Biden a envoyé des émissaires, des délégations pour discuter de cette normalisation des relations avec Caracas, en échange d'un dialogue politique renoué avec l'opposition interne. Et l'objectif d'une élection présidentielle en 2024 ou avant. C'est ça les termes de la discussion actuelle et cette discussion va avoir lieu d'ailleurs. Elle reprendra à Mexico entre le gouvernement vénézuélien et l'opposition pour aller vers cela. Les premiers à avoir fait ce bouger en quelque sorte diplomatique, ce sont précisément les États-Unis. Et donc comme Washington finalement d'une certaine manière a sifflé en quelque sorte le début d'une nouvelle partie avec le Venezuela, il est clair que les Français et probablement d'autres en Europe se sont sentis plus autorisés peut-être à réviser eux-mêmes leur position par rapport à Caracas, car évidemment, comme toujours, les choix et les positions de Washington pèsent énormément dans les diplomaties européennes et françaises qui n'y échappent pas. Donc voilà, les États-Unis ont commencé ce mouvement et cette question-là continuera d'être discutée certainement au niveau européen dans les prochains mois, n'en pas douter.
Et c'est ce qui s'appelle la réelle politique. A-t-on répondu à vos questions, Donald ?
Oui, M. Wan.
Bon,
à la prochaine.
Eh bien, à la prochaine, évidemment. Rappelez-nous quand vous le souhaitez. Bonne journée. En tout cas, vos questions étaient très intéressantes. J'ai appris plein de choses avec Christophe Ventura de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Je rappelle votre dernier ouvrage publié il y a quelques jours aux éditions Erol, Géopolitique de l'Amérique latine. Guy Cédric, bonjour.
Bonjour, Juan Gomez.
Comment allez-vous ?
Oui, je vais assez bien, merci.
Bon, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, Guy Cédric. Je sais que vous patientez au standard depuis un bon moment. Malheureusement, on est obligé de rendre l'antenne dans à peine une minute pour la dernière édition d'Afrique Matin. Mais si vous êtes disponible, on vous rappelle demain. On vous prend dans les premiers, puisque vos questions seront toujours d'actualité. Serez-vous disponible demain, Guy Cédric ?
Oui, je suis disponible demain.
Merci de votre confiance et vous poserez vos questions sur la mission des Nations Unies au Mali. Quel avenir pour la MINUSMA ? La question, effectivement, mérite d'être posée, d'avoir les explications d'un expert et mérite même d'être débattue. D'ailleurs, si vous le souhaitez et vous souhaitez commenter cette actualité, puisque le Royaume-Uni et la Côte d'Ivoire ont annoncé ces derniers jours qu'ils allaient se retirer de la MINUSMA, se retirer du Mali, eh bien, n'hésitez pas, inscrivez-vous dès maintenant pour la libre antenne du vendredi 33 9 693 693 70. En tout cas, nous, dans 10 minutes, nous allons parler du Bénin et cette décision de la commission électorale d'écarter de la course aux législatives le parti de l'ex-président Boni Yayi.